Aristote, Rhétorique, livre 2, chapitre 25. Des solutions. 1. C'est le moment, après ce qui vient d'être dit, de parler des solutions. On peut résoudre, soit en faisant un contre-syllogisme, soit en apportant une objection. 2. On pratique le contre-syllogisme, cela va de soi, en l'empruntant au même lieu, car les syllogismes se tirent des choses probables. Or, beaucoup de ces choses peuvent sembler contraires entre elles. 3. Il y a ici, comme dans les topiques, quatre manières de produire des objections. On peut les tirer soit du même, soit du semblable, soit du contraire, soit des jugements. 4. Du même, c'est-à-dire par exemple, s'il y a antimème sur l'amour, comme quoi il a un côté honnête. L'objection se présente sous deux aspects. Parlant en général, on dira que tout besoin est une mauvaise chose. Considérant un détail particulier, que l'on ne citerait pas l'amour conien, s'il n'y avait pas des amours mauvais. 5. On tire une objection du contraire. Exemple. S'il y a un antimème, comme quoi l'homme de bien rend service à tous ses amis. Ce n'est pas à dire que le méchant fait du mal au sien. 6. Lorsqu'il s'agit des semblables, s'il y a un antimème, comme quoi ceux à qui l'on fait du mal ont toujours du ressentiment, l'objection sera « Ce n'est pas à dire que ceux à qui l'on fait du bien ont toujours de l'amitié. » 7. Les jugements sont empruntés aux hommes célèbres. Exemple, si un antimème dit qu'il faut avoir de l'indulgence pour les gens ivres, attendu qu'ils pêchent par ignorance. L'objection dira, Pitacus n'est donc pas louable car il a édicté des peines plus graves pour les délits commis en cas d'ivresse. 8. Comme les antimèmes se tirent de quatre choses, qui sont le vraisemblable, l'exemple, la preuve matérielle et le signe. Comme d'ailleurs, parmi les antimèmes, ceux qui ont pour fondement ce qui a lieu ou ce qui semble avoir lieu d'ordinaire, tirent leur conclusion des choses vraisemblables et que d'autres l'obtiennent par l'induction du semblable, ou de l'unité, ou de la pluralité, lorsque, après avoir considéré le point de vue général, on argumente ensuite sur des particularités au moyen de l'exemple. D'autres l'obtiennent par la considération du fait nécessaire et existant au moyen du signe matériel. D'autres par celle du fait existant en général ou en particulier. Soit que réellement il existe ou n'existe pas, au moyen des signes. Comme enfin, le vraisemblable est ce qui a lieu, non pas toujours, mais d'ordinaire, il s'ensuit évidemment qu'on résoudra toujours des antimèmes de cette nature en apportant une objection. 9. La solution peut n'être qu'apparente. Et elle n'est pas toujours réelle, car ce n'est pas en objectant qu'il n'y a pas vraisemblance que l'on résout un argument, mais en objectant qu'il n'y a pas conséquence nécessaire. 10. C'est ce qui fait que, par l'emploi de ce paralogisme, celui qui défend a toujours l'avantage sur celui qui accuse. En effet, comme l'accusateur démontre toujours au moyen des vraisemblances, et que la solution n'est pas la même suivant que l'on allègue qu'il n'y a pas de vraisemblance ou qu'il n'y a pas conséquence nécessaire, comme d'autre part, l'objection porte toujours sur ce qui a lieu d'ordinaire. Autrement, ce ne serait pas le vraisemblable, mais ce qui arrive toujours et nécessairement, et que le juge, si la solution est présentée ainsi, estime ou bien qu'il n'y a pas vraisemblance, ou bien qu'il ne lui appartient pas de prononcer un jugement sur ce en quoi il fait un paralogisme, ainsi qu'on vient de le dire, car ce n'est pas seulement d'après les conséquences nécessaires qu'il doit juger, mais encore d'après la vraisemblance. Et c'est là ce qu'on appelle juger selon sa conscience. Il résulte de tout cela qu'il ne suffit pas de présenter une solution fondée sur ce qu'il n'y a pas conséquence nécessaire, mais qu'il faut résoudre en alléguant qu'il n'y a pas vraisemblance. Or, c'est ce qui aura lieu si l'objection vise de préférence ce qui arrive d'ordinaire. 11. L'objection peut se produire de deux manières, ou bien par la considération du temps, ou par celle des faits, et les principales font valoir l'une et l'autre. Car si le fait a lieu plusieurs fois, il n'en sera que plus vraisemblable. 12. On résout aussi les signes et les antimèmes énoncés par signes, mais s'ils répondent à une réalité, comme on l'a expliqué au livre premier. En effet, que tout signe soit privé du caractère syllogistique, nous l'avons fait voir clairement dans les analytiques. 13. Pour les arguments fondés sur l'exemple, la solution est la même que pour les choses vraisemblables. En effet, si nous avons un fait qui ne se soit point passé de même, il y aura une solution fondée sur ce que le fait n'est pas nécessaire, ou bien qu'il s'en est produit plusieurs et plusieurs fois d'une autre façon. Mais s'il s'en est produit plusieurs et plusieurs fois dans les mêmes conditions, il faut contredire en alléguant que le fait actuel n'est pas semblable ou ne se produit pas dans les mêmes conditions, ou que du moins, il y a différence par quelque côté. 14. Quant aux preuves matérielles et aux antimèmes qu'elles servent à former, on ne pourra les résoudre en alléguant leur caractère non syllogistique. C'est encore un point que nous avons mis en lumière dans les analytiques. Reste la solution qui sert à montrer que le fait énoncé n'existe pas. Or, s'il est manifeste et que ce fait existe et qu'il y en a une preuve matérielle, il devient dès lors impossible de la résoudre, car tout devient dès lors évident par la démonstration.